Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Libreville. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. On commence par le conflit au Soudan du Sud. Le président sud-soudanais Salva Kiir et l'ex-chef rebelle Riek Machar se sont engagés ce mardi à former un gouvernement d'union nationale avant fin février, à l'expiration du délai de 100 jours qui leur a été accordé pour se faire par les leaders des pays voisins. Nous nous sommes dit que nous devons former le gouvernement après les 100 jours, a souligné le président Kiir à l'issue d'une rencontre avec Riek Machar, lequel a rappelé de son côté que la question du nombre des États régionaux au sein du Soudan du Sud, un des points d'achoppement dans les négociations, n'avait pas encore été résolu. Toujours concernant le processus de paix sud-soudanais, les États-Unis ont imposé lundi des sanctions financières ciblées à deux ministres du Soudan du Sud. Washington accuse les intéressés de faire obstacle au retour de la paix dans ce pays en guerre depuis fin 2013. Les mesures punitives visent le ministre de la Défense, Kuol Manyang-Juk, et son collègue des affaires gouvernementales, Tal Martin Elialomouro, a annoncé le ministère américain du Trésor dans un communiqué. Il leur est reproché d'avoir perpétué le conflit pour leur enrichissement personnel. Résultat, leurs éventuels avoirs aux États-Unis sont gelés et l'accès au territoire américain leur est interdit. Au Gabon, le président gabonais Ali Bongo Ondimba doit effectuer mercredi son grand retour sur la scène diplomatique internationale à Libreville avec un sommet des chefs d'État de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Plus d'un an après son accident vasculaire cérébral et en pleine opération anticorruption dans son pays qui a ébranlé le cœur du pouvoir, la CEAC est une organisation créée en 1983 qui regroupe 11 pays avec pour objectif d'instaurer un marché commun. Et son sommet extraordinaire a été annoncé il y a quelques jours par le cabinet de M. Bongo qui en assure la présidence tournante. La réunion sera consacrée essentiellement à la réforme institutionnelle de cette communauté économique qui peine encore à se concrétiser comparée à ses homologues de la CDAO en Afrique de l'Ouest et de la SADC en Afrique australe. En République centrafricaine, l'ex-président François Bozizé est rentré au pays natal, c'est du moins ce qu'a annoncé hier son parti. Ce retour annoncé de longue date pourrait, s'il est confirmé, bouleverser le paysage politique à un an de la présidentielle prévue fin 2020. Le point avec Bagassi Koura.
Je peux vous le dire de la manière la plus solennelle, François Bozizé se trouve bel et bien à Bangui, a annoncé hier Bertin Béa, secrétaire général du KNK, le Kwanakwa, la formation politique de l'ancien président. Il ajoute que dans les jours à venir, François Bozizé prendra la parole, mais ne me demandez pas comment il est arrivé, ni où il se trouve. Cette annonce ne me semble pas crédible, a réagi le porte-parole du gouvernement, Maxime Ange Kazagi. Selon le code électoral, les candidats à la présidentielle de décembre 2020 doivent se trouver sur le territoire national au moins un an avant le scrutin. François Bozizé a dirigé le pays de 2003 au coup d'État de 2013. Après des années d'instabilité, la SELECA, une coalition de rebelles musulmans, met en débandade l'armée régulière et prend Bangui. François Bozizé doit fuir la capitale et prendre le chemin de l'exil. Après son départ, la Centrafrique sombre dans une spirale de violence intercommunautaire.
En République démocratique du Congo, 12 civils ont été tués hier et 9 autres blessés dans une nouvelle attaque des rebelles ADF dans la région de Beni, province du Nord Kivu, dans le nord-est du pays. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
D'après Pascal Sambili, chef de Watalinga, les ADF ont fait irruption à Kamango et ont tué des civils à la machette et à l'arme à feu. À l'arrivée des militaires, les assaillants ont battu en retraite en s'exprimant en Kinganda, une langue parlée en Ouganda, a déclaré Faustin Baswiki, président du comité des jeunes de Kamango. Dimanche, 22 civils ont été tués à Kamango, près de la frontière ougandaise, selon Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni. La veille, 6 civils ont été tués dans une autre attaque à Beni. Selon Leila Zerougi, chef de la MONUSCO, ces attaques visent à briser la confiance de la population et discréditer les troupes congolaises et la mission de l'ONU. depuis le 28 octobre, le chef d'état-major des forces armées, le général d'armée Célestin Bala, s'est installé avec son équipe à Beni. Un autre général, John Numbi, a été envoyé en renfort quelques jours après. Dans son premier discours sur l'état de la nation vendredi, le président Félix Tshisekedi, qui, dès son élection, s'était engagé à pacifier l'Est, a indiqué avoir changé le commandement de l'armée dans cette région.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel, le sommet sur le Sahel préconisé par le président français Emmanuel Macron a été reprogrammé pour le 13 janvier à Pau, dans le sud-ouest de la France. But de cette réunion, réévaluer les objectifs de l'engagement français dans la zone. Dans le même temps, les États-Unis dénoncent l'inertie des leaders des pays du Sahel face aux djihadistes. Précision d'Irénée Hermann Ongbo.
Les présidents de quatre des cinq pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, ont confirmé leur accord pour cette date selon l'Élysée, qui n'a fourni aucune précision pour la Mauritanie. Hier, les États-Unis se sont montrés critiques à l'ONU à l'égard des pays du Sahel, jugeant que leurs dirigeants ne font pas assez pour stabiliser la région. Pour lutter contre la violence et renforcer la stabilité, nous avons besoin d'un engagement accru des gouvernements régionaux, a souligné au Conseil de sécurité une diplomate américaine, Sherit Norman. N'avoir qu'une réponse militaire empêche souvent de traiter les raisons qui sont à l'origine d'un conflit violent, a-t-elle indiqué. Sherit Norman a en particulier pointé du doigt le manque d'avancées constatées au Mali, malgré l'accord de paix conclu à Alger en 2015. Nous restons préoccupés du peu de progrès effectué par le gouvernement du Mali et les groupes armés signataires de l'accord dans son application, a-t-elle souligné.
En Gambie, des milliers de personnes ont manifesté hier à Banjul pour demander au président Adama Barrow de quitter le pouvoir après 3 ans, comme il s'y était engagé en devenant le candidat unique de l'opposition fin 2016. M. Barrow veut maintenant rester au pouvoir jusqu'en 2021. Abdourahmane Dia.
Encadrés par les forces de l'ordre, les manifestants ont défilé en un grand cortège dans les rues de Banjul au rythme de la musique de Bob Marley, scandant « 3 ans, 3 ans ». Le mouvement de la société civile Trios Jotna, 3 ans, il est temps, fondé par un homme d'affaires gambien vivant aux États-Unis, Moussa Kaira, avait appelé à cette manifestation. Investi par une coalition de l'opposition contre le président Yahya Jammeh, Adama Barrow a remporté la présidentielle du 1er décembre 2016. Il a prêté serment à l'ambassade de Gambie à Dakar alors que Yahya Jammeh a été forcé de partir en exil après une intervention régionale. Selon la charte fondatrice de la coalition 2016, le nouveau président devait diriger un gouvernement provisoire pendant 3 ans. Maintenant, Adama Barrow, qui vient d'achever une tournée du pays aux allures de campagne électorale, assure toutefois que personne ne pourra le forcer à quitter la présidence avant 2021.
Actualité américaine pour terminer. Ici à Washington, le président Donald Trump sera mis en accusation cette semaine pour abus de pouvoir. Mais l'organisation de son procès historique en destitution déchire déjà les républicains et leurs opposants démocrates qui veulent entendre plusieurs responsables de la Maison-Blanche. Jean-Roger Bion.
Le président américain a abusé de ses pouvoirs à des fins politiques personnelles et a déployé des efforts sans précédent pour entraver l'enquête du Congrès. Dans un rapport de 658 pages mis en ligne lundi, les démocrates sont revenus sur les 2 chefs d'accusation qui seront soumis au vote probablement mercredi à la Chambre des représentants. Au Sénat où va se tenir le procès par la suite, les républicains auront la main sur la procédure et leur leader, Mitch McConnell, a déjà fait savoir qu'il va coordonner étroitement avec les avocats de la Maison-Blanche. Pas décidé à perdre totalement la main, le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a plaidé lundi pour un procès juste et honnête qui devrait selon lui commencer dès le 6 janvier. Dans un courrier à M. McConnell, il a demandé la convocation de 4 proches de Donald Trump, dont l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, ou le secrétaire général de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney, qui n'avait pas été autorisé à témoigner à la Chambre basse du Congrès. Selon M. Schumer, leur témoignage est essentiel car les 4 en question ont une connaissance directe des raisons pour lesquelles l'administration avait gelé près de 400 millions de dollars destinés à aider l'Ukraine dans son conflit armé avec la Russie. La Maison-Blanche a jugé cette requête risible et le président Trump lui-même n'a de cesse de dénoncer une chasse aux sorcières.
Et pour terminer, l'avionneur Boeing va suspendre en janvier la production de 737 alors que l'immobilisation de l'aviation MAX, la plus vendue, semble devoir durer une bonne partie de l'année prochaine. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.